Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Chers amis, première de deux émissions, aujourd'hui intitulée « Le mariage dans la perspective orthodoxe », un livre du père Jean Meyendorf, écrit en anglais et édité en 1975 par les presses de Saint-Vladimir, traduit en français et paru chez Imca Press en 1986 et réédité en 2017 chez Apostolia. Il s'agit d'une étude sur le sens théologique du mariage chrétien qui est accompagnée d'une série de textes patristiques, canoniques et liturgiques. Avant de parler du contenu de cet ouvrage, nous présentons en quelques mots la vie et l'œuvre du père Jean Meyendorf, un des plus grands théologiens orthodoxes du XXe siècle. Jean Meyendorf est né en France, à Neuilly-sur-Seine, en 1926, de parents d'origine germanique qui appartenaient à la noblesse russe. Il a fait ses études à Paris, de littérature à la Sorbonne et de théologie à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, où il reçut l'enseignement de la plupart des grands représentants de la pensée théologique russe de l'époque. En 1959, il a été ordonné prêtre, puis, faisant preuve d'une grande érudition et d'une vraie recherche théologique, Meyendorf a soutenu une thèse de doctorat à la Sorbonne sur l'œuvre et la théologie de Saint Grégoire Palamas, en contribuant ainsi de manière significative au renouvellement de la recherche sur ce grand théologien byzantin du XIVe siècle. Il a laissé une œuvre considérable dans les domaines de la théologie dogmatique et de l'histoire de l'Église, et fut un précurseur très engagé en matière de dialogue avec les chrétiens occidentaux et en même temps un vrai témoin du Christ en tant que pasteur et célébrant. Le père Jean est mort en 1992 à Montréal à l'âge de 66 ans. Cette émission est donc consacrée au livre du père Jean Meyendorf sur le mariage dans la perspective orthodoxe, dont je vous lirai quelques extraits et sur un surtout, comme la suivante qui sera diffusée dans 15 jours, enrichi de commentaires sur le mariage fait par le père Jean lui-même. L'idée principale du livre sur le mariage, une idée qui revient sans cesse dans les propos du père Jean, est le lien du mariage avec l'Eucharistie, ce qui lui donne une dimension sacramentelle qui dépasse les limites de la vie terrestre et de ses besoins et l'inscrit dans la perspective de la vie éternelle en Dieu. Je vous propose d'écouter maintenant le premier extrait d'archives où Jean Meyendorf introduit le sujet du mariage en le considérant par rapport à la société actuelle et la crise morale qu'elle connaît.
Le monde, la société dans laquelle nous vivons, passe par une crise très profonde en ce qui concerne tout le domaine de la sexualité et de la famille. Est-il légitime de dire que notre société aujourd'hui a perdu tout sens de moralité, de prendre les choses au tragique? C'est une question légitime de savoir si vraiment, autrefois, les gens étaient plus moraux qu'aujourd'hui. Mais ce qui est incontestable, c'est que les principes qui guidaient notre société dans ce domaine ne sont plus admis. Par conséquent, de ce point de vue-là, il y a donc une crise certaine. Et à mon avis, pas ce qui est le plus important du point de vue de l'Église, c'est d'affirmer une perspective et une vision de la nature humaine, une vision positive, qui est celle de l'Écriture, qui est celle des pères de l'Église, qui est celle de la tradition chrétienne dans son ensemble. Et tout cela nous dit que l'homme est appelé à communier avec Dieu, que ce qui est essentiel dans la vie de l'homme, c'est une ascension vers ce qui est au-dessus de lui, qui est Dieu lui-même. Et la tradition orthodoxe particulièrement parle de la déification d'une part. Et d'autre part, l'Église, en affirmant que le mariage est un sacrement, affirme donc que la sexualité et les relations entre hommes-femmes sont non seulement compatibles avec la vision chrétienne de l'homme, mais qu'elles doivent et peuvent être sauvées, transfigurées, sanctifiées. C'est là le sens du mariage en tant que sacrement.
Et après la voix de Jean Meyendorf, écoutons en complément un extrait de son livre « Le mariage dans la perspective orthodoxe ». Il n'entre pas dans la compétence de l'auteur, ni dans les limites de cet essai, de discuter toutes les questions mettant en cause mariage et sexualité. Notre seul sujet est le mariage en tant que sacrement, c'est-à-dire un aspect qui n'est ni du domaine de la psychologie, ni de celui de la physiologie, ni de celui de la sociologie. Cependant, l'auteur est persuadé que la façon dont l'Église orthodoxe comprend le sacrement du mariage est la seule attitude chrétienne possible, face à la plupart des difficultés rencontrées de nos jours. Cette façon d'aborder le problème est assez différente de celle qui domine traditionnellement dans la chrétienté occidentale et elle pourrait apporter des ouvertures à des solutions pratiques. La notion de mariage en tant que sacrement suppose au départ que l'homme n'est pas seulement un être avec des fonctions physiologiques, psychologiques et sociales, mais également un citoyen du royaume de Dieu, c'est-à-dire que toute sa vie, et en particulier les moments les plus décisifs, met en jeu des valeurs éternelles, et Dieu lui-même. Ce deuxième point conduit au titre de notre chapitre intitulé « Mariage et Eucharistie ». L'Eucharistie, ou divine liturgie, est le moment et le lieu où tout chrétien doit comprendre ce qu'il est réellement. Dans l'Eucharistie, le royaume de Dieu, dont il est devenu citoyen par le baptême, devient directement accessible à ses sens spirituels. La divine liturgie, en effet, commence par cette exclamation « Béni soit le royaume du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Pendant la liturgie, l'Église, qui est de façon concrète un rassemblement de personnes, cesse d'être une organisation humaine et devient véritablement l'Église de Dieu. Alors, le Christ lui-même conduit l'Assemblée, et l'Assemblée est transformée en son corps. Alors, toute séparation entre les événements concrets et historiques et l'éternité est brisée. C'est dans ce contexte que l'Église nous enseigne que le mariage est un sacrement dans la mesure où il a lieu dans le cadre de la divine liturgie eucharistique. Cette association du mariage et de l'Eucharistie peut, à première vue, sembler étrange. Le mariage nous semble être une affaire personnelle ou familiale. Il peut éventuellement être béni à l'Église et acquérir par l'un un parfum réconfortant de légitimité et de sacré tout à la fois. Mais sa relation avec la liturgie n'apparaît pas clairement à la plupart d'entre nous. L'actuelle cérémonie à l'Église ne montre aucune relation évidente avec l'Eucharistie et seul un groupe de proches et d'amis invités prennent part à la cérémonie. Pourtant, comme nous essaierons de le montrer dans cet essai, il n'est pas possible de comprendre la doctrine sur le mariage du Nouveau Testament ni la pratique de l'Église orthodoxe si on ne place pas le mariage chrétien dans le contexte de l'Eucharistie. L'Eucharistie et la discipline qu'implique notre participation à l'Eucharistie sont les clés qui expliquent l'attitude chrétienne face au mariage à l'Église et face au mariage qui était ou sont encore conclus en dehors de l'Église. Beaucoup de difficultés pratiques auxquelles nous nous heurtons proviennent du fait que le lien mystique et sacramentel entre le mariage et l'Eucharistie est totalement oublié. Il s'agit donc pour nous de surmonter la désintégration spirituelle qui résulte de cet oubli. Autrement, il nous serait impossible de faire face aux responsabilités de notre société moderne et sécularisée et d'apporter une réponse nette des orthodoxes à ces problèmes contemporains. En fait, le sens eucharistique du mariage illustre clairement ce qu'est la doctrine chrétienne essentielle sur l'homme, image de Dieu destinée à participer à la vie divine elle-même. Les psychologues et les sociologues, chacun dans leur domaine limité, peuvent avoir un avant-goût de cette vérité, mais certainement pas l'affirmer dans sa plénitude.
Nous avons vu la vraie lumière.
Seule l'expérience chrétienne de Dieu devenant homme, pour que l'homme devienne Dieu, selon saint Athanase d'Alexandrie, est le mystère central de la foi chrétienne. Le mariage chrétien en est aussi l'expression.
Adorons l'indivisible Trinité, car c'est elle qui nous a sauvés.
Et après cet extrait de la Divine Liturgie par l'ensemble Harmonie Géorgienne, dirigé par Nana Peradze, voici un autre extrait de l'entretien accordé par Jean Mayendorf, et cette fois-ci il parle des perspectives antiques et chrétiennes du mariage.
Dans le monde pré-chrétien, le monde, disons, hellénistique, qui a précédé la période du Nouveau Testament, la sexualité était considérée dans l'ensemble comme un problème personnel. Dans le monde gréco-romain, il n'y avait pas d'idée d'un mariage unique en tant qu'idéal. Dans le monde juif, par contre, le mariage était considéré essentiellement comme un moyen de survie dans ses enfants. Le but du mariage était explicitement la procréation et la survie. Par conséquent, comme vous le savez, un mariage stérile, n'est-ce pas, a été considéré comme une
malédiction.
Mais dans le christianisme, saint Paul, dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 5, découvre, en quelque sorte, nous révèle une idée du mariage tout à fait unique, n'est-ce pas, qui n'existe nulle part ailleurs, en dehors de la révélation chrétienne. C'est que c'est un mystère, et que c'est un mystère du Christ et de l'Église, ou si vous voulez, de Dieu et du Nouvel Israël. Et comme il n'y a qu'un Christ et qu'une Église, le mariage est présenté comme une façon unique pour un homme et une femme de s'unir et de réaliser dans leur vie commune le mystère de l'Église, le mystère du salut. Ceci n'existe nulle part ailleurs. Et c'est cela que nous considérons, enfin nous disons sacrement du mariage, mais enfin le grec dit mysterion, le mystère. Mais c'est le mystère de l'union du Christ et de l'Église. Et donc l'idéal du mariage dans le christianisme est le mariage unique d'un homme et d'une femme qui s'unissent en quelque sorte pour toujours. Ce n'est pas une union simplement limitée à la vie physique ou même à la vie temporelle. L'idéal est eschatologique, comme disent les théologiens, c'est-à-dire c'est vraiment une révélation du royaume de Dieu, et cette union est projetée dans ce royaume, elle continue là. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle toute la tradition canonique de l'Église orthodoxe tend à décourager les seconds mariages, pas seulement décourager le divorce, mais le second mariage. Par exemple, nous avons le mariage des prêtres, par exemple, mais un homme qui s'est marié deux fois ou qui a épousé une veuve ne peut pas être prêtre, non pas parce que c'est un péché d'épouser une veuve, mais c'est parce que un prêtre doit pratiquer le mariage dans sa forme idéale. Enfin, il est, on peut, et par conséquent, l'unicité du mariage et l'éternité du mariage est ce qui est protégé par la législation canonique. Mais l'Église a toujours été réaliste, enfin, en ce sens que la grâce sacramentelle n'est pas magique, n'est-ce pas ? La grâce sacramentelle requiert la coopération, la synergie de l'homme. Dieu ne peut pas nous forcer. Et il y a dans certains cas où cette grâce, pour des raisons quelquefois très multiples, qui peuvent être considérées simplement en elles-mêmes, et elles sont toujours différentes d'un cas à un autre, mais où l'Église constate qu'il n'y a pas mariage. Quand le mariage n'existe plus, eh bien, elle n'existe plus. En Occident, n'est-ce pas, c'est pas pour faire de la polémique, mais en Occident, l'idée du mariage n'a jamais été, en quelque sorte, détachée complètement de cette idée de contrat légal. C'est un contrat que l'on ne peut briser, n'est-ce pas ? C'est ça la philosophie dominante. Alors qu'en Orient, ce n'est pas tellement le contrat, c'est une union sacramentelle et mystique, qui est unique, et de ce point de vue-là, sanctifié et transfiguré, hein, pas ? Mais cette sanctification et cette transfiguration s'opèrent évidemment dans la cérémonie, dans la liturgie du mariage, mais aussi durant toute la vie, parce que c'est comme le baptême, finalement. Le baptême n'est qu'un acte formel, à moins que les gens vivent leur baptême. Et ici, le parallélisme est complet. Si quelqu'un est baptisé sans savoir ce qu'est le baptême, et n'est jamais informé même de la signification du baptême, évidemment, Dieu le jugera, n'est-ce pas, s'il est baptisé ou non, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, il sera baptisé. Mais pour le mariage est... D'ailleurs, pour le mariage, c'est intéressant que notre liturgie du mariage est très liée à l'Eucharistie. Et dans l'Église primitive, nous savons qu'il n'y avait pas cette liturgie somptueuse que nous avons maintenant du mariage. Dans le premier millénaire de l'Église, il y avait une cérémonie au sein de l'Eucharistie dominicale. Et on utilisait quelquefois ces couronnes aussi, mais il y avait une brève prière prononcée par l'évêque au sein de l'Eucharistie dominicale, et à la suite de laquelle le couple communiait ensemble et donc déclarait devant l'Église qu'il entendait vivre un mariage chrétien, n'est-ce pas, et avec toutes les obligations et tout ce que ce mariage impliquait. Mais c'est, je crois, ce que nous devons essayer de faire, une espèce d'éducation avant le mariage. Quand le couple orthodoxe veut entrer dans cette réalité sacramentelle du mariage, il faut qu'il soit préparé, qu'il comprenne ce dont il s'agit, n'est-ce pas ? Mais généralement, c'est difficile à faire, très souvent, parce que les gens ne sont pas prêts. Mais c'est essentiel que nous y revenions. Et c'est une question de manifester l'évangile chrétien lui-même, de dire que c'est un idéal.
Et après cet extrait où le père Jean Meyendorff parlait des différentes perspectives du mariage, en particulier de l'évolution entre les normes de l'Ancien Testament et celles du Nouveau, voici une lecture tirée de son livre parlant précisément de ce changement de perspective. Cet extrait vient aussitôt après un passage où l'auteur insiste sur l'unicité du mariage chrétien, en opposition avec le concubinage, parfois admis dans l'Ancien Testament pour assurer la continuité de la race, ou l'institution du lévirat, qui obligeait un homme à assurer une postérité à son frère défunt en épousant sa veuve. Voici ce que dit le père Jean à la suite de cela. L'enseignement du Christ interdisant le divorce reflète de façon plus positive la nature du mariage chrétien. Cela est opposé de façon directe au Deutéronome qui permettait le divorce. Le seul fait que le mariage chrétien soit indissoluble exclut toute interprétation utilitaire. L'union de l'époux et de l'épouse est une fin en soi. C'est une union éternelle entre deux personnes uniques et éternelles, union qui ne peut être rompue par des concepts tels que la descendance, justifiant le concubinage, ou la solidarité familiale, base du lévirat. Toutefois, l'indissolubilité n'est pas une exigence absolue du point de vue légal. L'exception bien connue, mentionnée par saint Matthieu, sauf pour cause de fornication, Matthieu 5, 32, est là pour nous rappeler que la loi du royaume de Dieu n'est jamais contraignante de façon légale. Elle suppose une réponse libre de l'homme. De la même façon, la grâce du mariage a besoin d'être acceptée, vécue librement, mais elle peut éventuellement être rejetée par l'homme. En général, l'Évangile ne réduit jamais le mystère de la liberté de l'homme à des préceptes légaux. Il offre à l'homme le seul don digne de l'image de Dieu, l'impossible perfection. Soyez parfait comme votre Père est parfait. L'exigence du Christ d'une monogamie absolue apparaît ainsi comme une impossibilité à ceux qui l'écoutent. En fait, l'amour est au-delà des catégories du possible et de l'impossible. C'est un don parfait, connu par l'expérience seule. Il est évidemment incompatible avec l'adultère. En cas d'adultère, le don est refusé et le mariage n'existe plus. Ce qui s'ensuit n'est pas seulement un divorce légal, mais la tragédie du mauvais usage de la liberté, c'est-à-dire le péché. Lorsqu'il parle du veuvage, saint Paul suppose au départ que le mariage n'est pas rompu par la mort, car l'amour ne fait jamais défaut. En général, l'attitude de saint Paul à l'égard du mariage est clairement distincte de celle du judaïsme. Dans ses épîtres, et plus particulièrement dans la première épître aux Corinthiens, il déclare préférer de façon évidente le célibat au mariage. C'est seulement dans son épître aux Éphésiens qu'il corrige ce point de vue négatif en montrant que le mariage est l'image de l'union entre le Christ et l'Église. Cette doctrine devient la base de toute la théologie du mariage et elle apparaît ainsi dans la tradition de l'Église. En ce qui concerne le remariage des veufs, le point de vue de saint Paul, ainsi qu'il l'exprime dans sa première épître aux Corinthiens, est strictement confirmé par la tradition canonique et sacramentelle de l'Église. S'ils ne peuvent se contenir, qu'ils se marient, car mieux vaut se marier que brûler. En tout cas, l'Écriture et la tradition s'accordent pour dire que la fidélité d'une veuve ou d'un veuf à son mari ou à sa femme décédée est plus qu'un idéal, une norme chrétienne. Le mariage chrétien n'est pas seulement une union sexuelle ou une union terrestre, mais un lien éternel qui subsistera quand nos corps seront glorifiés et que le Christ sera tout en tous. Ces exemples montrent clairement que dans le Nouveau Testament, une conception tout à fait nouvelle de mariage est introduite. Elle découle directement de la bonne nouvelle de la résurrection apportée par le Christ. Un chrétien est appelé, dès ce monde, à vivre une nouvelle vie, à devenir un citoyen du royaume. Et il peut le faire dans le mariage. Mais alors, le mariage cesse d'être la simple satisfaction d'une exigence temporaire de la nature ou le moyen de s'assurer une survivance illusoire à travers sa descendance. Il devient l'union unique, dont l'amour entre deux êtres qui peuvent transcender leur propre humanité et ainsi être unis non seulement l'un à l'autre, mais aussi en Christ. Il faut noter que le père Jean, qui fut entre autres un merveilleux historien de l'Église, explique de manière simple mais assez systématique l'évolution du rite du mariage qui s'émancipe progressivement de la célébration de l'Eucharistie office qui évolua également dans l'histoire. Et cette distinction progressive se manifeste dès le IVe siècle par une solennisation du rite du couronnement qui était à l'époque accompli au cours de l'Eucharistie. Plus tard, au IXe siècle, saint Théodore Studit dit dans une de ses lettres que le couronnement était accompagné d'une prière lue par l'évêque ou le prêtre devant tout le peuple à la liturgie du dimanche. Mais ce rite n'est pas considéré encore comme une obligation pour la validité du mariage. Enfin, le pas décisif est fait au Xe siècle avec une loi de l'empereur Léon VI qui exprime ses regrets devant le fait que la législation considérait jusque-là l'adoption d'un enfant et le mariage comme des actes purement civils. Ce même texte déclare que désormais ces actes, lorsqu'ils concernent des citoyens libres, seront marqués par une cérémonie religieuse sous peine d'être considérés pas comme un mariage, mais comme un concubinage illégitime. C'est bien de cette époque que date l'apparition d'un rite du couronnement en tant qu'office distinct de la célébration eucharistique. Mais il est évident que la réalité du monde actuel, où le mariage religieux n'est plus une obligation légale, mais repose sur le choix libre des époux, permet le retour vers une célébration commune de ces deux sacrements. Écoutons pour terminer l'appel dans ce sens que lance Jean Meyendorff dans son livre. De nos jours, le rapport entre mariage et Eucharistie doit et peut facilement être rétabli. Quelle meilleure façon pour l'Église de montrer à ses enfants la vraie signification sacramentelle de l'acte qu'ils accomplissent? Et voilà, c'est avec ces mots du Père Jean Meyendorff que nous terminons cette première émission consacrée à ce grand théologien, à son livre « Le mariage dans la perspective orthodoxe ». Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Christostalis. Chargée de réalisation, Anne Pérez. Prise de son, Emmanuel Armingue. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Et voici maintenant le service protestant.